Fallait bien que ça arrive, il est 6h. Et peu importe ce qu'il arrive dans le monde, il est là pour nous le raconter. C'est Quentin Frey qui nous présente The Flash. Bonjour Quentin.
Bonjour. Et aujourd'hui, jour de la Saint-Maurice, la grande chasse va rejoindre la procession qui se tient dans la commune agonoise. Ce coffre qui abriterait les reliques du martyr a été restauré ces 4 dernières années. Et le travail des spécialistes a été présenté hier à la presse. L'objet sacré a été nettoyé de son ternissement et peut désormais à nouveau affronter les siècles, comme le confie Jean Squarcella, père abbé de la congrégation de Saint-Maurice. Il est au micro de Valérie Blom.
Il faut quand même garder à l'esprit que la chasse reste un objet sacré, d'une certaine manière qui donne vie toujours à Maurice et ses compagnons, puisque les reliques, ces restes de leurs précieux ossements sont une présence. De tout le culte des reliques qui a été restauré dès le 4e siècle est quelque chose qui vraiment veut donner une nouvelle présence aux martyrs, à ceux qui ont donné leur vie pour le Christ. Cette chasse, elle a cette force-là. Aujourd'hui, de l'avoir restaurée, bien sûr, c'est une joie, c'est très beau, ça fait très plaisir, et c'est inespéré. Mais surtout, je crois que cette restauration, a peut-être une couleur de nouvelle évangélisation, de renouveau, une espèce de redépart dans la foi.
Les conservateurs ont pu déterminer la date de construction de cette grande chasse, initialement estimée au XVIIe siècle. Ils ont découvert que le coffre a plutôt été assemblé au début du XIIIe siècle à partir du recyclage d'autres œuvres. Et ils étaient plus de 2000 hier soir à défiler dans les rues de Lausanne contre le certificat Covid. Le rassemblement, le premier du genre dans le canton de Vaud, a été initié par le collectif estudiantien Éducation sans certificat, opposé à l'obligation de présenter un pass pour accéder aux hautes écoles. La manifestation a toutefois mobilisé beaucoup plus large. Les participants ont brandi des pancartes dénonçant la passe de la honte et appelé le ministre de la Santé, Alain Berset, à la démission. Cette manifestation coïncide avec la rentrée dans les hautes écoles vaudoises qui a eu lieu hier matin. Pour l'heure, le certificat est nécessaire pour accéder aux cafétérias, bibliothèques, les salles de sport, mais pas pour les auditoires. Des contrôles aléatoires sont menés et pour cela, l'UNIL a engagé 40 personnes. Coût de l'opération, 750 000 francs. La loi des séries se confirme pour les budgets de l'État de Vaud. Le canton a présenté hier des prévisions déficitaires pour la deuxième année consécutive, après 15 ans dans les chiffres noirs. Le montant de la perte, 188 millions de francs sur une enveloppe de 10,6 milliards. Une perte notamment due à l'augmentation des charges dans les domaines liés à la démographie, mais aussi aux baisses fiscales mises en place par l'État. L'inquiétude n'est pas pour autant au rendez-vous pour le Grand Argentier qui parle de budget à l'équilibre et de cohésion. Avec 850 millions d'investissements, le canton n'a d'ailleurs pas limité ses ambitions. Pascal Broulis.
Donc c'est aussi ce qui fait du déficit. On investit dans tous les secteurs qui sont à la pointe aujourd'hui, le climat, la rénovation de bâtiments, la construction de bâtiments en lien avec des nouvelles technologies comme la maison de l'environnement qu'on vient d'inaugurer, le futur gymnase de l'Est Vaudois qui sera totalement en bois, et puis des besoins qui touchent des modifications de comportement dans la mobilité douce, versus les routes aussi, puisqu'on investit aussi dans les routes, mais plutôt dans les requalifications de routes, des modifications d'infrastructures routières ou des renforcements. Donc voilà, donc c'est plutôt de l'investissement du 21e siècle.
Et notons tout de même que les charges liées au Covid ne sont pas incluses dans ce budget. Le canton de Vaud a fait le choix de gérer la crise hors budget. Il a notamment mis en place un préfinancement de 400 millions de francs cette année. C'était un sujet d'Isabelle Bertolini. Puis la rentrée académique a eu lieu hier pour les étudiants de l'Université de Lausanne et de l'EPFL. Un retour au cours bien sûr particulier, puisque pour assister aux enseignements, il faut désormais présenter son certificat Covid. Éric Dupasquet, directeur du domaine de la sécurité et de l'exploitation à l'École Polytechnique de Lausanne, rappelait à nos confrères de LFM les mesures en place pour se rendre dans les auditoires.
Vous devez présenter un certificat Covid valide, ainsi qu'une pièce d'identité. Il y a un contrôle aux entrées des auditoires, donc c'est des contrôles aléatoires. Tous les auditoires ne sont pas contrôlés en même temps. L'auditoire est plein, le port du masque est toujours obligatoire à l'intérieur de l'auditoire, même s'il y a le contrôle de certificat Covid. Ça, c'est les directives qui ont été données au niveau cantonal et fédéral. Et puis, les professeurs sont aussi, ou les assistants sont aussi contrôlés certificat Covid dans la salle, et tout se passe très bien.
En ce premier jour, je suis étudiant, j'oublie ma carte d'identité, qu'est-ce qui se passe?
Alors ça va être un problème, vous avez sans doute votre carte d'étudiant parce que le premier jour, vous n'allez pas l'oublier. Alors, on utilise votre carte d'étudiant comme pièce de légitimation. La flexibilité ne va pas au-delà du fait que si vous n'avez pas de certificat ou d'attestation de vaccination, on ne va pas vous laisser rentrer. Ça serait quand même une brèche, mais on a quand même de la souplesse pour faire un certain nombre d'autres contrôles, typiquement l'identité.
Pour les étudiants qui ne seraient pas vaccinés ou qui n'auraient pas été malades du coronavirus, il reste la possibilité de se faire tester sur le campus pour se rendre en cours. Cette solution sera gratuite au moins jusqu'au 31 octobre avant d'être réévaluée. Une nouvelle initiative populaire a été lancée mardi à Berne pour introduire en Suisse un revenu de base inconditionnel. Les Helvètes avaient pourtant sèchement rejeté cette idée en votation populaire en 2016 à plus de 75%. Les problèmes restent, tonnent les initiants qui se disent hors des partis ni de gauche ni de droite. Ils ont aussi donné un cadre au financement du RBI. Il s'agirait de taxer les transactions financières, les entreprises technologiques et les revenus du capital. Utopique, le revenu de base en Suisse, l'une des initiantes, la vaudoise Kalina Anguelova.
On aimerait changer un tout petit peu de paradigme. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en Suisse, une personne sur 10 vive dans la pauvreté. Avec un RBI, on offre une possibilité à toutes ces personnes qui sont déjà dans la précarité d'avoir un socle existentiel dans lequel ils se sentiraient bien, en sécurité, où on n'a pas peur de perdre son travail, où on a la possibilité de réduire son temps de travail pour commencer une formation. On estime en Suisse qu'il y a plus de 50% des heures de travail qui ne sont pas rémunérées. Si un RBI, on arrive à voter sur ce principe, on arrivera aussi à rémunérer toutes ces personnes qui se sont investies dans un travail de care ou bénévole et qui recevront de l'argent pour ça. Ce sera valorisé.
Voilà, c'était des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. L'association Revenu de Base Suisse dispose de 18 mois pour récolter 100 000 signatures et déposer son initiative à la chancellerie fédérale. Puis à l'étranger, Amnesty International lance une campagne mondiale pour lutter contre les inégalités face à la vaccination contre le Covid. La pétition 100 jours pour attraper le retard. Pardon, voilà.
Mais c'est bon, tranquille pas.
100 jours pour attraper le retard demande que 40% de la population des pays pauvres soit vaccinée d'ici fin 2021. Cette démarche est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Amnesty International s'en prend notamment aux compagnies pharmaceutiques et leur réclame 2 milliards de doses à distribuer aux pays à faible revenu. Puis la terre a tremblé ce matin en Australie. Un séisme de magnitude 5,8 a frappé le sud-est du pays dans la région de Melbourne, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Et puis on boucle avec un mot de football. Zurich reste provisoirement en tête du classement de Super League. Les hommes du coach André Breitenreiter ont fait match nul de partout avec Servette hier dans un choc de la 7e journée qui a tenu toutes ses promesses. Le FCZ qui reste sur 3 matchs sans victoire après avoir gagné ses 4 premières rencontres de la saison pourrait toutefois céder le fauteuil de leader ce soir. Il ne compte en effet que 2 longueurs d'avance sur Bâle qui se déplacera à Saint-Gall.